C'est une joie de vous voir très nombreux ce matin, là, dans ce, oulala, on va y arriver. Dans cette pièce, également la salle du bas est assez bondée ce matin. Et, c'est une joie en ce dimanche de presque rentrée, c'est dimanche dernier dans un sens, mais dans un sens c'est aujourd'hui presque la vraie rentrée, une joie de vous voir si nombreux. Et avant de lire dans quelques instants le texte sur lequel portera le message, j'aimerais dire deux mots d'une nouvelle série que nous commençons ce dimanche, nouvelle série de messages, et qui nous occupera pour la plupart des prédications jusqu'à fin novembre, jusqu'avant la période de l'Avent. Et il s'agit d'une série que nous avons décidé d'appeler « Qui sommes-nous ?». Alors, la question à laquelle nous voulons répondre dans cet ensemble de messages est la suivante. Quel lien peut-on faire entre une petite église locale comme la nôtre, relativement petite, à Paris, au XXIe siècle, 72 rue de Sèvres, et les projets du Dieu de la Bible, ce Dieu tout-puissant, ce Créateur tout-puissant, celui qui est à l'origine de l'univers, celui qui domine sur les siècles et sur les nations. Il faut quand même une certaine audace pour établir un lien entre les deux, pour imaginer qu'une petite assemblée comme la nôtre pourrait avoir de l'importance aux yeux du Créateur de l'univers. Et pourtant, nous croyons que c'est ce que nous pouvons affirmer. Qui sommes-nous donc en tant qu'Église? Quelle est notre place, avec d'autres Églises, bien sûr, heureusement, dans l'histoire du monde, dans l'histoire que Dieu écrit? Et pour tenter de répondre à cette question, nous allons faire au cours de cette série un parcours biblique. On regardera un texte principalement à chaque fois, mais au long de la série, un parcours biblique pour voir ce que la Bible dit des hommes et des femmes qu'il a appelés à le connaître au fil des lieux et des siècles. Et j'espère que nous en ressortirons encouragés, mis au défi pour nous assurer que nous sommes en phase avec les projets de Dieu et époustouflés par ce qu'il fait. Ce matin, nous commençons au début de cette histoire. Peut-être pas le tout début, mais à un tournant de cette histoire, en examinant un texte clé de la Genèse, celui de l'appel d'Abraham, au chapitre 12, donc de la Genèse. Alors même avant cet appel, dans les 11 premiers chapitres de la Bible, il y a déjà des indices de ce que Dieu va faire dans l'histoire. Mais avec l'appel d'Abraham, les choses se précisent. Et je vous invite donc à ouvrir vos Bibles donc à la Genèse, premier livre de la Bible, à la fin du chapitre 11, pour bien cerner le contexte, nous lirons de 11:27 à 12:3. Et si vous voulez utiliser les Bibles bleues qui sont sur les bancs dans la salle du haut, il s'agit des pages 13 et 14. Donc, Genèse 11:27 à 12:3. Un petit mot pour dire que, donc vous l'avez entendu, le groupe des petits a sa rentrée ce matin. Les groupes des grands, des moyens et des grands, ça sera la semaine prochaine, donc. Ils sont avec nous pour ce culte. Alors peut-être que ça sera un peu compliqué de suivre, de rester attentif pour tout le message. Les adultes, je sais qu'il n'y a aucun souci, mais pour les enfants peut-être. Mais alors, pour vous les enfants qui êtes là, je voudrais vous laisser cette question. Comment vous réagiriez si on vous disait un jour, il faut que tu prennes tes affaires, que tu quittes ta maison, avec uniquement ceux qui sont autour de toi quand même, tes parents, tes frères et sœurs, et que tu ailles dans un autre pays. Et moi, Dieu, je vais t'expliquer comment ça va se passer pour toi dans cet autre pays. Je ne sais pas comment vous réagiriez si vous entendiez cet appel de Dieu, mais c'est ce qui a été le cas pour Abraham. Et donc, je vais lire ce texte. Je suis désolé pour, je ne sais pas d'où viennent ces... Comme il y a beaucoup de travaux en ce moment... C'est parfois, on a parfois des résultats un petit peu inattendus. Donc, nous lisons Genèse à la fin du chapitre 11, au verset 27, page 13. Voici la lignée de Térakh. Térakh eut pour fils Abraham, Nakhor et Haran. Haran eut Lot. Haran mourut du vivant de son père Térakh, dans le pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nakhor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai et la femme de Nakhor Milka. Elle était la fille d'Aran, qui était le père de Milka et de Jiska. Sarai était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Térakh prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Haran, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan. Mais, arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Térakh vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Amen. En examinant ce texte, je voudrais retenir deux grandes idées qui en ressortent. D'abord, Dieu opère une rupture, et puis Dieu parle au futur. Dans un premier temps, donc, Dieu opère une rupture. Pendant quelques jours, voire quelques semaines, les attentats du 13 novembre 2015 ont paru changer la France. Il y a eu cette immense manifestation quelques jours après pour le vivre ensemble. Il y a eu une unité politique inédite, semble-t-il. Il n'y avait plus de place pour les querelles d'avant. Tout était désormais empreint de gravité. Les vraies priorités semblaient apparaître plus clairement. Tout le monde voulait vivre ensemble et oublier les conflits et les différences. Combien de temps cela a-t-il duré? Pas très longtemps. Bientôt, les gens ont repris leur vie quotidienne, comme auparavant. Les querelles ont également repris. Les gens également ont tiré des conclusions totalement opposées sur les leçons qu'il fallait tirer de ces événements. La politique et ses conflits ont repris leurs droits. Et en fait, quand on considère l'histoire d'un point de vue général, on constate qu'elle ne change pas fondamentalement les hommes. Et la Bible fait ce même constat à propos de la vie humaine. Depuis que dans la nuit des temps, nos premiers parents ont souhaité vivre sans l'autorité de Dieu, l'homme en est réduit à chercher à donner lui-même du sens à sa vie. Et on constate, et surtout sur le long terme, que cette quête de sens s'avère toujours, en définitive, futile. Et c'est l'impression qui ressort de la lecture des chapitres 3 à 11 de la Genèse. Les choses, quand on lit du chapitre 3 jusqu'au chapitre 11, les choses semblent même aller de mal en pis. De l'épisode du meurtre d'Abel à celui de la tour de Babel, les péripéties humaines se succèdent et c'est difficile d'y trouver vraiment du sens. Et c'est l'impression qu'on ressent également quand on lit la fin du chapitre 11. Verset 27, qui s'inscrit à la fin d'une longue généalogie, nous dévoile la lignée d'un certain Térakh ou Térah selon les traductions. Il a eu des enfants, ses enfants se sont mariés, la vie n'était pas facile, l'une de ses belles-filles, par exemple, ne pouvait pas avoir d'enfants, etc. Les générations se succèdent, mais rien ne change vraiment. Je ne reviens pas sur l'âge canonique de Térakh, 205 ans, interprété diversement par les commentateurs, ce n'est pas notre propos ce matin. Mais en tout cas, rien dans les chapitres qui précèdent ne nous invite à l'optimisme. La vie humaine est bien loin de ce que Dieu avait voulu pour l'homme, et qui nous est dévoilé au début de la Genèse, une vie de joie, de paix, d'abondance, en communion avec le Créateur, en communion les uns avec les autres. Quelle espérance pourrait-il bien y avoir? Et c'est là qu'un épisode qui, à l'échelle de l'histoire, pourrait paraître totalement insignifiant, va tout changer. Et ce que je vous invite à considérer, c'est que si cet épisode n'avait pas eu lieu, nous ne serions pas rassemblés ici ce matin. Dieu va interrompre ce cycle incessant et futile pour intervenir dans l'histoire des hommes et opérer une rupture. Alors nous sommes, a priori, autour du XXe siècle avant Jésus-Christ, ça fait un bail. On ne sait pas exactement pourquoi Térakh et sa famille ont quitté leur région d'origine, Ur en Chaldée, ce correspond sans doute à l'Irak actuel, près du golfe Persique, pour rejoindre Charan, sans doute la Turquie actuelle près de la frontière avec la Syrie. L'industrie pétrolière n'avait pas encore vu le jour dans le golfe Persique, et donc peut-être c'était pour des raisons économiques qu'ils ont dû, qu'ils ont dû changer de région. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Les péripéties de la vie, le besoin de s'établir ailleurs, ou le projet de s'établir ailleurs. Certains parmi nous connaissent très bien ce déracinement qui survient lorsqu'on quitte son pays et sa famille pour aller s'installer très loin de là où on a grandi. Mais brusquement, Dieu adresse la parole à un homme, Abraham, le fils de Térakh. Pour l'instant, il s'appelle Abraham. Un peu plus tard, il s'appellera Abraham. En français, on n'entend quasiment pas la différence. Peu importe pour nous. Pourquoi lui ? Pourquoi Abraham ? Aucune idée. Ça fait partie des choses que Dieu n'a pas révélées. Pourquoi est-ce qu'il a choisi lui et pas un autre ? Nous ne savons pas. Notre Dieu garde certaines choses secrètes. La Bible le dit, il nous révèle beaucoup de choses sur lui-même, sur ses projets, mais pas tout. Et souvent, c'est une très bonne chose pour nous. Mais ce jour-là, Dieu a parlé à un homme, Abraham, pour lui dire de quitter son pays, de quitter sa patrie d'adoption, donc Charan, et sa famille au sens large. Il va quand même prendre avec lui sa femme, quelques proches, mais il va quitter son clan, sa famille, pour aller dans un autre pays que Dieu allait lui montrer. Et ce pays, on l'apprend déjà furtivement au verset 31, c'est Canaan qui plus tard deviendra Israël. Avant même d'aller plus loin, on constate que dans ce passage, Dieu a un projet. Manifestement, il ne va pas simplement laisser les gens vivre et mourir dans ce cycle inlassable sans intervenir. Il aurait eu le droit de simplement laisser le monde continuer comme ça, puisque l'homme a rejeté son autorité et son amour. Mais Dieu, en quelque sorte, va zoomer sur cet homme, ce simple migrant, Abraham, et va révéler des projets pour lui. Je ne sais pas si, comme moi, vous aimez l'application Google Earth, qui, basée sur des photographies satellites, part d'une image de la Terre. Donc, quand vous ouvrez l'application, vous voyez le globe, vous voyez la Terre. Et si vous tapez dans la ligne de recherche 72 rue de Sèvres, par exemple, ben vous allez faire une descente vertigineuse jusqu'au bâtiment de notre église. Bien, c'est un peu ainsi que Dieu aime agir à de nombreuses reprises dans la Bible. Le maître de l'univers zoome pour intervenir dans l'histoire des hommes. Et si ces interventions se font parfois étonnamment à toute petite échelle, eh bien leur impact à long terme, il est toujours à très grande échelle. Dieu aime commencer petit et finir très grand, en quelque sorte. Et c'est ce qui se passe dans cet appel fait à Abraham. On commence à petite échelle. Toi, Abraham, quitte ce lieu et rends-toi dans un autre lieu. Mais on commence à dézoomer déjà pour atteindre la plus grande échelle, enfin une plus grande échelle. Je ferai de toi une grande nation. C'est déjà pas mal comme promesse, c'est déjà beaucoup. Je ferai de toi une grande nation. De toi, de ta descendance, des tiens, vous allez être un grand peuple. C'est déjà énorme. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Promesse saisissante. Et en plus, on ne voit rien, aucune raison pour expliquer que Abraham puisse mériter cela. C'est simplement un choix de Dieu. Mais à la fin du chapitre 3, alors là, on dézoome encore beaucoup plus et on change complètement de dimension. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre. On reviendra sur cette promesse dans quelques instants. Mais d'abord, une double application. Pour ceux parmi nous qui sommes chrétiens de longue date, ce n'est pas le cas de tous, c'est le cas de plusieurs. Il peut nous arriver d'être tenté par la lassitude, la fatigue spirituelle, la déception, devant ce caractère parfois un peu futile de la vie quotidienne. Ça continue encore et encore. C'est que le début d'accord, comme dit l'autre. Ce texte, parmi bien d'autres, nous rappelle que Dieu est un Dieu qui apporte une rupture dans la lassitude et la futilité de la vie. Un Dieu qui vient percer notre ordinaire avec son extraordinaire. Un chemin nouveau, pas toujours facile dans ce monde présent, mais un chemin qui va vers la vie, qui va vers la joie, qui va vers la plénitude. Comme pour Abraham, répondre à l'appel de Dieu en suivant Jésus-Christ, j'y reviendrai, bien, ça implique de se lever, de quitter le confort trompeur d'une vie vécue sans lui, pour vivre avec lui. « Voici, je fais toutes choses nouvelles, dit le Christ ressuscité. » Apocalypse 21,5. « Je fais toutes choses nouvelles. » Avec Dieu, la vie et l'espérance sont inépuisables, quelles que soient les circonstances du moment. Dieu n'est jamais à court de vie et il n'est jamais à court d'espérance. Et le chemin qu'Abraham a dû emprunter n'était pas un chemin facile, et la suite va le prouver, va le confirmer, mais c'est un chemin qui conduit à Dieu, qui conduit à la source inépuisable de la vie. Alors dans nos moments de lassitude et de découragement, on ne se trompera jamais si on cherche à suivre Jésus de plus près dans ces moments-là. C'est jamais le mauvais choix, c'est toujours le bon choix. En cultivant sa présence, en cultivant la connaissance de sa parole, connaître Dieu, c'est sortir de la futilité pour aller vers le renouvellement de toute chose. Maintenant, pour ceux et celles qui n'ont pas encore répondu à l'appel de Jésus-Christ, j'espère que ce texte vous invite à considérer la rupture que notre Créateur nous invite à vivre. Et que vous serez ouverts à entendre cet appel qui traverse les âges. L'appel du Dieu vivant pour sortir de la futilité d'une vie vécue sans lui et entrer dans ses projets. Et ça m'amène à mon second point. Dieu parle au futur. Quand on pense au déroulement du temps, que ce soit à l'image de nos vies ou à l'image de l'histoire, on pense presque tous, j'imagine, de façon linéaire. Il y a le commencement, il y a un processus, il y a un aboutissement, et le temps, c'est comme une ligne qu'on parcourt. Et c'est pour ça qu'on a des projets, par exemple. C'est parce qu'on veut aller vers quelque chose, c'est pour ça qu'on a des objectifs. Ce qu'on oublie parfois, c'est que cette conception si évidente pour nous, en fait, elle doit beaucoup à la Bible. Dans beaucoup de visions du monde antique, le temps était vu plutôt comme cyclique que comme linéaire. Les situations se répètent, il n'y a pas vraiment de but ni d'aboutissement. Mais la Bible a profondément changé la donne en révélant un Dieu qui lui-même est hors du temps, mais qui a créé dans le temps, et qui a créé le temps. Un Dieu qui a donné un point de départ au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et qui, dans ce qu'il nous a révélé, a fixé un aboutissement, un objectif. Et c'est ce qu'on voit dans l'histoire d'Abraham. Alors que tout semblait, à la fin du chapitre 11, indiquer une simple répétition des péripéties de la vie, eh bien, le Créateur intervient pour donner une direction, un sens, et pour annoncer un avenir. Et c'est un avenir qui est totalement inespéré. Je ne sais pas si vous pouvez penser à des situations dans votre vie où vous avez vécu quelque chose d'inespéré, vous vous attendiez à quelque chose de mauvais, et finalement, à votre grande surprise, vous avez trouvé quelque chose de bon. Pour bien s'en rendre compte de ce caractère inespéré, du projet de Dieu pour Abraham, il faut remonter un instant au chapitre 3 de la Genèse, alors que l'homme et la femme viennent de se révolter contre Dieu, et là la sentence tombe. Je lis Genèse 3, 17, vous pouvez simplement l'écouter si vous souhaitez. Genèse 3, 17, « Le sol est maudit à cause de toi. » Et un peu plus loin, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » « Le sol est maudit », déclare Dieu. Autre traduction, « la terre est maudite ». Et la vie humaine n'est que poussière qui retourne à la poussière. Mais en Genèse 12, versets 2 et 3, ce n'est plus la malédiction que Dieu promet, mais la bénédiction. « Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction ». Alors certes, la malédiction n'est pas absente de ce texte puisqu'elle est promise à ceux qui s'opposeront à Abraham. Et Dieu dit en gros, ceux qui s'opposeront à toi et sous-entendu au projet que je vais conduire en toi, eh bien s'opposeront en fait à moi. Mais c'est la bénédiction qui a le dernier mot et à très grande échelle, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et on peut relever, parce que ce n'est pas sans intérêt, que c'est le même mot qui est utilisé ici et au chapitre 3 pour parler du sol qui est maudit, la terre qui est maudite. Toutes les familles de la terre, c'est le même mot qui est utilisé. Alors que ce qui était annoncé pour l'homme en Genèse 3, c'était la malédiction de la terre, Dieu dit en Genèse 12 qu'il va bénir toutes les familles de la terre. Or, que veut dire béni lorsque c'est Dieu qui parle? Ça vaut la peine de se poser la question. Parfois, dans nos milieux chrétiens, évangéliques, on se dit « sois béni ». Que Dieu te bénisse, etc., c'est très bien de le dire. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? À strictement parler, bénir, c'est dire du bien. Mais le Dieu de la Bible est un Dieu dont la parole est puissante et agissante. Ce que Dieu dit, il le fait. On voit ça dès le tout premier chapitre de la Genèse où Dieu parle et crée par sa parole. Alors quand Dieu dit le bien, eh bien Dieu fait le bien. Il n'y a rien de plus désirable pour nous tous que notre Créateur utilise sa parole pour décréter le bien en notre faveur. Si Dieu dit du bien de nous, alors il n'y a aucune parole ou action mauvaise qui pourra avoir le dernier mot. Nous affecter, oui, pour l'instant, dans le temps présent, mais avoir le dernier mot, non. Parce que la parole de Dieu est ce qu'elle est. Si nous sommes bénis par Dieu, si Dieu dit du bien de nous, alors la parole bonne de Dieu pour nous aura le dernier mot. Et donc Dieu révèle dans ce texte que ses projets pour l'humanité et pour le monde sont bons, malgré le drame de Genèse 3, malgré la révolte des hommes contre lui, malgré l'irruption du mal et de la mort dans la création. Dieu annonce que c'est la bénédiction qui aura le dernier mot. Et l'étendue de cette bénédiction, elle est saisissante. Toutes les familles de la terre. Sans doute, une façon de dire toutes les nations de la terre, tous les clans de la terre. Les projets de Dieu sont bons pour le monde entier. Et si nous sommes en Jésus-Christ, les projets de Dieu pour nous sont bons. La suite de l'Ancien Testament montrera que Dieu avait des projets particuliers pour la descendance immédiate d'Abraham, la descendance physique d'Abraham, le peuple d'Israël. Mais jamais l'Ancien Testament n'oubliera le caractère universel de cette promesse. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dans plusieurs textes clés, l'Ancien Testament converge pour dire qu'un jour Dieu va rassembler les nations auprès de lui. On note que Dieu ne dit pas qu'il bénira l'humanité tout court. Il ne dit pas « je bénirai les hommes ». Il va bénir les hommes en Abraham. Autrement dit, quelque chose va se passer, et on ne sait pas trop quoi à ce stade de Genèse 12, quelque chose va se passer qui va faire que la descendance d'Abraham sera source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Avec Abraham, Dieu a commencé, entre guillemets, à écrire une histoire. Et aujourd'hui encore, au XXIe siècle, nous sommes appelés à rejoindre cette même histoire. Ce n'est pas pour rien que, quand on ouvre le Nouveau Testament à la première page, Matthieu chapitre 1, verset 1, on lit « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Alors c'est vrai, ce verset souligne l'héritage juif de Jésus. Mais il nous rappelle aussi que Jésus est l'héritier d'Abraham. Et la suite du Nouveau Testament montrera que c'est en lui, Jésus-Christ, fils d'Abraham, que Dieu offre sa délivrance aux hommes et aux femmes de toutes les nations. Même les Français. Et je n'ai aucun doute que Jésus pensait à cette promesse faite à Abraham lorsqu'il a envoyé ses disciples après sa résurrection en leur disant « Allez, faites de toutes les nations mes disciples » Matthieu 28, 19. Dieu a choisi d'accomplir, de tenir la promesse faite à Abraham en envoyant Jésus comme sauveur non seulement d'Israël, mais aussi de toutes les nations, de toutes les familles de la terre. Jésus, nous l'avons rappelé tout à l'heure, offre à tous les hommes un nouveau départ avec Dieu, par sa mort sacrificielle sur la croix, par une vie nouvelle conquise en sortant du tombeau. En Jésus, il y a la bénédiction de Dieu. En Jésus, Dieu a tenu la promesse faite 2 millénaires plus tôt à Abraham. Alors qui sommes-nous en tant que rassemblement de chrétiens aujourd'hui ? Nous sommes des hommes et des femmes sans prétention, en tout cas j'espère, pas meilleurs que les autres. N'est pas meilleur que les gens qui nous entourent, mais qui avons trouvé en Jésus-Christ la bénédiction de Dieu, la puissance d'une promesse qui dépasse nos circonstances, une promesse héritée des temps anciens, de ce nomade en apparence insignifiant appelé Abraham. Et nous devons nous saisir à la fois de la rupture et de la promesse d'avenir que cette histoire nous dévoile. alors que globalement nos contemporains, je pense qu'on peut dire, cherchent à tirer leur épingle du jeu apparemment aléatoire de la vie, eh bien nous sommes témoins d'un message qui dit que ce qu'il faut rechercher, ce qui donnera du sens, c'est de retrouver celui qui nous a créés. Celui qui peut donner la bénédiction véritable. Et là, avec lui, on sort du cycle incessant des péripéties humaines pour aller vers un avenir. Alors que globalement, nos contemporains, et souvent nous, peut-être, ne remettent pas en question le va-et-vient de la vie entre la joie et la souffrance, entre la vie et la mort qu'on trouve dans le quotidien. Eh bien, nous sommes témoins d'un message qui dit que le Dieu créateur nous conduit vers une espérance authentique, une vie nouvelle et impérissable, une création définitivement réconciliée. Si nous sommes chrétiens, nos vies sont fondées sur la promesse de Dieu, promesse de sa bénédiction à la place de la malédiction que nous aurions méritée. La promesse que, au-delà de nos projets hésitants, souvent décevants, il y a la fermeté de ses projets à lui. Et cette assurance-là, elle peut donner un sens nouveau, même aux choses ordinaires. Parce que quand on vit les choses avec Dieu, on sort toujours de l'ordinaire, en définitive. Alors vous me direz peut-être que c'est bien joli, mais concrètement, à quoi ça ressemble dans la vie de tous les jours, cet extraordinaire de Dieu? Je pense qu'une façon de vivre cette assurance-là, c'est de chercher dans les choses ordinaires du quotidien à être porteur de bénédiction. Dire du bien, même quand on a envie de dire du mal. Faire le bien, même quand on a envie de faire le mal. À petite échelle souvent, à grande échelle parfois. Être au service des autres, prendre le temps de les connaître et de les écouter. Peut-être, par exemple, à la fin d'un culte, ne pas tout de suite aller vers les gens qu'on connaît bien, mais aller voir cette personne qui a l'air un peu seule, qui semble ne connaître personne, pour faire connaissance, pour souhaiter la bienvenue, pour l'écouter. Sortir du cycle du productivisme et de la suractivité qui nous est vendue tous les jours et qui guette particulièrement à Paris. Il faut faire des choses extraordinaires tout le temps et des activités extraordinaires pour nous, pour nos enfants. Non pas parce que nous serions des personnes extraordinaires, mais parce que nous connaissons un Dieu extraordinaire. Et sa bénédiction, elle se vit, elle se partage, elle se communique. Jésus dira dans cette parole bien connue, Matthieu 5, 13, « Vous êtes le sel de la terre, c'est vous qui donnez de la saveur au monde. » Dieu avait toutes les raisons de dire du mal et de faire le mal à une humanité révoltée. Mais il a décidé de bénir. Et c'est ce qu'il nous appelle à faire à sa suite. Je suis sûr que sans exception, nous pouvons tous trouver quelqu'un que nous pourrions bénir cette semaine. C'est peut-être simplement, dans un premier temps, nos enfants, notre conjoint, nos amis proches, nos collègues. Et puis là, on voit qu'on commence à élargir le cercle. Dieu a décidé de bénir et il nous invite à bénir. Et la suite de la série, je crois, nous montrera cela régulièrement, pas la série elle-même, mais les textes bibliques que nous allons aborder. Dieu montre combien il veut faire de son peuple un instrument de bénédiction. Alors qui sommes-nous à l'église de la rue de Sèvres? Eh bien nous sommes en tout cas appelés à être ceux qui seront comme Abraham, un canal, un instrument de la bénédiction de Dieu pour ceux qui nous entourent. Que Dieu, dans sa grâce, nous donne les ressources dont nous avons besoin pour vivre cette haute vocation. Amen.